700 millions de Chinois. Et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon pointe au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens. Et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs. Et moi. Qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits. Et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim. Et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains. Et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens. Et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie.
Et maintenant la lecture d'un texte intitulé « Je ne vous pardonnerai pas ». Julie a perdu sa mère en quelques jours. Après avoir contracté les premiers symptômes du Covid-19, Daniel a été hospitalisé et à partir de ce moment, dans une violence inouïe et habillée de droit, son corps ne lui appartenait plus. Julie a pris la voiture pour aller voir sa mère, être auprès d'elle dans ce moment décisif. Mais le médecin lui a dit qu'elle ne pourrait pas la voir, qu'elle pourrait seulement voir son corps avant qu'elle ne soit mise sans aucune toilette ni soin dans un sac mortuaire. Elle a donc attendu dans la chambre, anonyme, d'un hôtel de bord de route. Elle a regardé la télé, confinée dans son deuil impossible à faire. Elle est descendue commander un repas, un verre de vin. Elle a attendu pendant que sa mère attendait, elle aussi, sur son lit d'hôpital. Et puis elle a reçu un coup de fil. Elle était morte. Elle pouvait venir voir le corps. Ça lui a été présenté comme une fleur, un privilège. Elle est donc allée voir sa mère, le corps de sa mère, encore tiède. Elle a dû mettre des gants, un masque. Elle a pu lui dire au revoir, commencer à réaliser ce que notre monde voulait lui voler, aimer sa mère. Elle est retournée dans sa chambre d'hôtel, toujours anonyme. Elle a commencé à faire les démarches pour les obsèques, carte d'identité, livret de famille, choix du cercueil, de l'urne. Elle a appelé plusieurs fois les pompes funèbres. Elle les a presque toutes appelées. Elles ont toutes répondu cette même réponse, inaudible, impossible, inhumaine. Vous ne pourrez pas revoir le corps de votre mère. Vous ne pourrez pas suivre le cercueil au funérarium. Vous ne pourrez pas assister à la crémation. Vous ne pourrez pas célébrer les obsèques. Vous pourrez venir chercher l'urne dans 2 semaines. Il n'est plus ici question de contagiosité. Il n'est plus question ici de coronavirus. On peut pousser son caddie au supermarché, mais on ne peut pas accompagner le cercueil de sa mère. On peut prendre sa voiture pour aller travailler. On peut planter des pommes de terre. On peut réparer des voitures. On peut transporter des marchandises, on peut livrer des colis, on peut faire le plein d'essence, on peut prendre l'autoroute, le train ou même l'avion. On peut quitter Paris, faire une location saisonnière. Mais on ne peut pas dire adieu à sa mère, on ne peut pas assister à sa crémation, on ne peut pas lui dire un dernier poème devant quelques proches réunis. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. ça vient de nous, de notre inhumanité naissante. Nous sommes dépossédés de nos défunts. L'État et son heuristique de la peur semblent avoir conquis le monopole radical de la mort. Et je n'entends aucune voix, aucune rage, aucune fureur monter de la rue. Et je n'entends aucune plainte. J'ai passé le moment d'émerveillement face au retour de la nature. L'homme ne s'est pas retiré du monde, il s'est retiré de lui-même. Il a retranché son humanité. Ne pas enterrer ses morts, c'est enterrer sa vie même. Julie rentre demain. Elle ira chercher l'urne dans 2 semaines. Elle ira chercher son deuil et elle organisera les obsèques quand l'État lui en donnera le droit. Un corps représente encore une valeur marchande. Cercueil, urne, funérarium, prestation des pompes funèbres. Le deuil, les larmes, le rituel, la chaleur humaine, le cœur, l'âme, les déchirements, les déchirures, les cicatrices, les colères, les rages, ça ne rapporte rien. Ça ne mérite aucune case dans aucune attestation dérogatoire de déplacement. Mais c'est votre cœur que vous avez déplacé. C'est votre cœur que vous avez oublié de cocher. Julie ira faire les courses. Elle ira sortir les poubelles. Elle ira faire le plein. Elle ira peut-être aider au champ. Son deuil, elle s'en occupera plus tard. Quand on n'aura plus le temps de s'en occuper. Quand on aura tous oublié. Quand on voudra tous oublier. Elle lira un poème. Peut-être au funérarium où sa mère a été incinérée. Peut-être qu'on n'y verra que du feu. Qu'on fera comme si sa mère venait de mourir. Comme si on avait pu lui dire au revoir, comme si on avait pu l'accompagner, lui tenir la main, la serrer, embrasser son front, comme si on avait entendu son dernier souffle, comme si on avait pu faire son deuil. Mais sera-t-on capable de faire comme si ? Comment osons-nous pousser des caddies et abandonner nos morts ? Comment osons-nous laisser les gens crever seuls ? Comment osons-nous regarder ailleurs ? Qui a l'autorité de nous dire comment accompagner nos défunts ? Qui a l'autorité de nous interdire un geste, un deuil, un murmure ? Je ne vous pardonnerai pas de laisser crever les morts. Je ne vous pardonnerai pas d'avoir blessé ma compagne. Je ne vous pardonnerai pas votre inhumanité, habillée d'urgence sanitaire. Vous voulez que j'écoute les oiseaux? Que je regarde les rorquals dans les calanques? Vous voulez que je visionne des séries, que je lise des livres? Vous voulez que je médite sur le sens de l'existence? La voilà, ma méditation métaphysique. Vous êtes des chiens aveugles qui piétinaient nos âmes sur l'asphalte du progrès. Vous êtes les fantômes d'un monde mortifère détruisant nos songes. Vous avez presque le monopole radical de la mort. Je ne vous laisserai pas celui de la vie. Mathieu Huon.
Yeah.
Radio, on est là sur 107.7 ou sur lasfero.net. Vous pouvez nous appeler pour passer en direct au 07 54 10 72 59. Vous pouvez aussi nous laisser un mail et des documents, des textes à lire, tout ce que vous voulez, des documents sonores sur le mail radioonestla@riseup.net. Et pour finir, il y a le blog où vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions, radioonestla.noblog.org. Et maintenant, on vous propose l'écoute d'un nouveau texte.
Du Monde diplomatique d'avril 2020, l'hôpital le jour d'après. Tous les spécialistes en conviennent, le confinement total est le prix du manque de moyens, notamment à l'hôpital, dû à l'incurie des gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans. C'est maintenant qu'il faut tirer les leçons et le revoir de fond en comble la politique de santé. C'est un texte qui a été écrit par André Grimaldi et Frédéric Pierru, qui sont respectivement professeurs au CHU de la Pitié-Salpêtrière et sociologues au CNRS. Il a donc fallu le Covid-19 pour donner raison aux collectifs interhôpitaux et disqualifier en quelques semaines le credo néolibéral. Le collier de fer budgétaire des hôpitaux, la tarification à l'activité, la gouvernance d'entreprise transposé à l'hôpital public. Le président Macron a semblé soudainement découvrir que la santé devait échapper au marché. Les premiers de cordée ont laissé la place dans ses discours aux héros en blouse blanche, celles et ceux qui depuis des mois réclament la fin de l'asphyxie budgétaire. Pas question toutefois pour nos gouvernants d'annoncer clairement une augmentation des salaires pour les personnels hospitaliers non médecins. Concernant les salaires des infirmiers, la France arrive pourtant en 28e position sur les 32 pays étudiés par l'OCDE. Pour toute reconnaissance envers les héros en blouse blanche qui manquent de masques de protection, M. Gérald Darmanin s'est contenté d'assurer que leurs heures supplémentaires seraient payées. M. le ministre de l'Action et des Comptes Publics est trop généreux. Sa goujaterie fait craindre que les leçons de cette épidémie ne soient pas tirées par ceux qui avaient donné la priorité au profit à court terme, sur la sécurité. Ceux qui avaient accepté que les principes actifs des médicaments ne soient plus produits en Europe. Ceux qui considéraient comme insensée la construction d'une entreprise pharmaceutique à but non lucratif, produisant les médicaments génériques et les dispositifs indispensables. Ceux qui se sont avérés incapables de fournir à la demande masques et solutions hydroalcooliques. Ceux qui ont œuvré pendant des années à la démolition de l'hôpital public. Ceux qui ont mis fin à la sanctuarisation des recettes de la sécurité sociale et y ont puisé cette année 2,5 milliards d'euros pour financer les exonérations de la cotisation à la CSG, la contribution sociale généralisée, ce qui a été décidé à la suite du mouvement des Gilets jaunes. En aparté, c'est la loi Veil de 1994 qui, à la base, impose le remboursement intégral du manque à gagner pour la sécurité sociale des exonérations de cotisations. Voilà. Et donc, M. Macron ne l'applique plus depuis 2019. C'est tout nouveau. Il faudra donc faire le bilan de ces décisions irresponsables et mettre la politique de santé et environnementale au cœur du débat démocratique. En effet, le système de soins se retrouve en bout de chaîne et doit gérer les conséquences sanitaires des choix politiques, économiques et budgétaires qui creusent les inégalités sociales et géographiques de santé. À rappeler que 13 ans d'espérance de vie séparent les catégories les plus favorisées des plus démunies. Le virus, bien sûr, ne choisit pas ses victimes, mais les crises sanitaires, économiques et sociales frappent toujours les plus démunis. Le jour d'après, nous promet le président, ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous espérons qu'il sera meilleur, mais il pourrait aussi être pire. Tout aussi libéral économiquement, mais plus autoritaire politiquement. La politique de santé représentera un test. Santé business ou santé publique. On peut espérer que l'application de la règle du juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité remplacera la recherche de la rentabilité pour chaque établissement. Il va de soi qu'il faudra ouvrir des lits avec des personnels formés là où cela est nécessaire. Je rappelle que 70 000 lits ont été fermés ces dernières années. C'est-à-dire, il faudra rouvrir des lits en aval des urgences pour mettre fin aux hospitalisations prolongées pendant des heures sur des brancards et en aval des soins aigus impossibles pour des raisons médicales ou sociales à poursuivre au domicile des personnes qui en ont besoin. Les managers français sont obsédés par la réduction de 30% des lits pour pousser au tournant ambulatoire. L'Allemagne, de son côté, elle dispose 50% de lits en plus et du double de lits de réanimation par habitant. En ville comme à l'hôpital, la qualité des soins repose sur le travail en équipe, médical et paramédical, avec des personnels en nombre suffisant, formés et stables. Cela implique une coordination structurée entre les professionnels, qu'ils soient de premier recours, médecins généralistes, infirmières libérales, spécialistes, hospitaliers ou exerçant en centre de soins de suite et rééducation, ou encore dans le champ médico-social en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et cela nécessite aussi la participation aux équipes soignantes de patients experts. Ce sont des patients qui souffrent de maladies chroniques, qui ont donc accumulé des connaissances, qui ont appris à vivre avec et qui peuvent accompagner d'autres malades. Toute cette qualité doit être évaluée, notamment par les pairs et par les patients. Ce qui est impossible si l'on ne renonce pas au modèle anglo-saxon du paiement à la qualité, conduisant à soigner les indicateurs plutôt que les personnes. La France se glorifie d'être en troisième position mondiale pour les dépenses de santé calculées en pourcentage du PIB. Mais elle tombe à la 12e place lorsqu'on les rapporte au nombre d'habitants. En 2018, selon l'OCDE, les dépenses de santé représentaient 5 200 € en Allemagne contre 4 300 € en France. Comparée aux pays européens comparables, notre structure de dépenses se caractérise par la faiblesse de la place consacrée à la prévention, l'importance des inégalités sociales et géographiques malgré la couverture maladie universelle, la CMU, la modération des revenus de professionnels hospitaliers, en dehors du secteur privé bien sûr, et de ceux du premier secours, laquelle pousse à multiplier les actes. Il nous faudra donc à la fois porter les salaires des hospitaliers au niveau de la moyenne de ceux des pays de l'OCDE, c'est-à-dire plus que la revendication légitime des 300 € par mois qui a été faite déjà par le personnel non médical et par les collectifs et syndicats. Ainsi, nous pourrions enfin passer d'un système centré sur la maladie et le soin à un système de santé centré sur la personne, ce qui inclut la prévention individuelle et collective. Car l'état de santé de la population dépend de déterminants sociaux comme l'accès au logement, à l'éducation, la cohésion sociale, la qualité de l'environnement physique, etc. etc. Et cela implique également une prise en charge globale, à la fois biomédicale et psychosociale. Le patient ne sera donc pas un consommateur faisant librement son marché, et le professionnel un prestataire comme un autre, mais l'un et l'autre deviendront les acteurs d'un système solidaire prenant en charge à 100% un panier de prévention et de soins dont les limites devront être fixées après un débat de démocratie sanitaire. L'histoire montre que les systèmes de santé ne peuvent connaître des réformes d'ampleur que dans des conjonctures sociales et politiques critiques. Dans le cas français, ce furent la Révolution française, la sortie de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, la crise algérienne, l'avènement de la Ve République ou encore mai-juin 68. Le caractère inédit de la pandémie de Covid-19 peut fournir une telle occasion. Et en attendant, on ne peut que répéter les mots du docteur François Salachas, neurologue au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'adresse de M. Macron le 27 février dernier. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur nous, l'inverse reste à prouver. C'était donc un article d'André Grimaldi et Frédéric Pierru paru dans Le Monde diplomatique en avril 2020. Merci vous.
Radio, on est là.